Notre invité est installé, il est écrivain, il est traducteur, il est éditeur. Il a une quarantaine de livres à son actif, des romans, des essais, des recueils de poésie. Il s'est attaché à la traduction de grands textes antiques et classiques, Saint Augustin, Shakespeare, le Kama Sutra, la Bible. Son dernier essai, paru en septembre dernier, était le livre d'un homme qui s'est relevé après une épreuve. Son nouveau texte est une adresse poétique bouleversante à sa compagne disparue accidentellement l'été dernier. Et par ailleurs, il a longtemps été directeur éditorial chez Bayard, mais il a accepté de reprendre les rênes de la maison POL, qu'il édite depuis 1991, après la mort accidentelle de son directeur le 2 janvier dernier, Paul Otchakowski-Laurence, qui était son ami. Bonjour Frédéric Boyer.
Bonjour.
Ce livre, le dernier, s'intitule « Peut-être pas immortel ». Il paraît chez POL, mais vous avez dit que vous arrêteriez de vous publier chez POL si vous continuiez d'écrire. Donc c'est le dernier, d'une certaine façon, paru chez POL si vous l'écrivez.
C'est le dernier livre, oui, voilà.
Ah, c'est le dernier livre,
paru chez POL, après.
Merci, vous nous rassurez, c'est pas le dernier livre paru tout court. La douleur, l'espoir d'une sortie du tunnel, si je reprends le titre de l'avant-dernier, mais qui était un essai cette fois, « Là où le cœur attend », qui était donc l'histoire d'un homme qui se relève après une douleur, après un désastre personnel. C'est ce sur quoi vous écrivez, pas toujours, hein, puisque j'ai dit que vous traduisiez aussi, puis que vous avez une quarantaine de livres à votre actif. Mais là, les deux derniers, c'est aussi ça, se relever tant que faire se peut.
Oui.
Ah, ça c'est le Siri qui s'allume. On va l'éteindre tout de suite.
Ben voilà, c'est un peu ça la littérature aussi. Non, d'abord j'ai traversé. Depuis plus de 6 mois, quelque chose qui est extrêmement douloureux, la perte de deux amis très très chers, deux personnes qui m'accompagnaient dans la vie. Donc quand on perd comme ça coup sur coup deux soutiens, on se demande effectivement si on va pouvoir tenir. Et tout ce que je peux dire, parce que ça sert à rien de raconter sa vie, mais ce que je peux dire, c'est que tout d'un coup on retrouve un sens à la littérature, le sens peut-être antique, archaïque de ce que les Latins appelaient la littera, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'écrire. Ce qui s'écrit dans l'Antiquité, à l'origine, c'était véritablement ce dont on devait faire mémoire. C'était presque des petits monuments, si vous voulez, pour effectivement tenir quelque chose parmi les vivants, que des souvenirs puissent exister dans la vie de tous les jours. Et la littérature est née comme ça. Voilà. Donc parfois, dans la vie, dans l'existence, on retrouve la fonction première de l'écriture, c'est-à-dire de créer des petits monuments qui nous aident à vivre.
Ouais. Ça permet de sortir du tourment ?
Oui, ça permet d'extérioriser quelque chose et surtout d'en faire quelque chose de plus universel que sa petite douleur, que sa petite souffrance à soi. Voilà.
Et puis c'est sortir de la nuit. Sortir de la nuit, s'il se trouve que il est 7h, on est samedi matin, que la question est se lever, la question est se relever. Hein, et c'est la question que vous posiez dans « Là où le cœur attend », Frédéric Boyer, se relever est la question que pose chaque nuit et l'effort que va réclamer le jour qui vient. C'est une question de chaque jour, c'est une question de chaque matin. La littérature, dites-vous, est là pour tenter d'y répondre. Mais c'est aussi comment on apprend à vivre avec une cicatrice, la cicatrice de la perte, dans votre cas la double perte. Surtout que Là où le cœur attend, c'était un livre qui avait été écrit avant la première des pertes, qui est celle de votre compagne Anne Dufour-Mantel. C'était un livre que vous portiez de toute façon depuis longtemps. C'est une mise en œuvre aussi, le livre, d'une certaine façon.
Oui, enfin, ça a été une histoire. C'est une étrange histoire, puisque ce livre devait paraître effectivement à l'automne dernier. Il est paru à l'automne dernier, et entre-temps, il y a eu la disparition d'Anne, effectivement. Donc c'était un livre qui racontait comment poser un acte d'espérance. Effectivement, il y a eu comme une espèce de précipitation de l'existence elle-même, puisque le livre est venu comme un soutien, alors que celui qui l'avait écrit ne s'y attendait pas. C'est-à-dire que tout d'un coup, le livre est devenu vivant, enfin dans un sens un peu terrible, sauvage, même cruel, puisqu'il parlait d'espoir, et il est venu à un moment donné où effectivement, celui qui l'avait écrit avait le plus besoin de retrouver quelque chose de l'ordre de l'espérance. Ouais. Mais ça, ça dit aussi quelque chose, que la littérature est très proche de ce que j'appelle ce qu'on peut appeler la sauvagerie de la vie. Voilà, la vie est comme une espèce de grand fauve là qui dévore tout, qui dévore la vie elle-même. Et finalement, voilà, on doit apprendre, si on veut rester en vie, à vivre avec ce fauve qu'est la vie elle-même. Voilà.
Et vous disiez, Frédéric Boyer, aussi que la littérature a ce pouvoir d'inventer des vies. Il se trouve que ce pouvoir a commencé avec les Confessions de Saint-Augustin, que vous avez traduit sous le titre Les Aveux. Là, ce serait quand même autre chose, puisque vous n'inventez pas des vies, mais vous travaillez sur la façon dont chacun de nous peut construire la sienne, comme si la littérature avait une action sur l'existence.
Oui, c'est quelque chose que je crois profondément depuis le début, et c'est effectivement, c'est plus la vie passe, plus je crois que c'est une grande vérité de ce qu'est la littérature aujourd'hui. Parfois, on se demande si la littérature est toujours là, quoi elle peut servir dans le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Or, effectivement, la littérature a une action sur l'existence. Voilà. Elle a une action sur la vie des gens. Et, en tout cas, c'est à ce moment-là que la littérature est à la fois utile et indispensable.
On ne va pas effectivement rentrer dans le cœur du texte de Peut-être pas immortel, Frédéric Boyer, qui est fait de trois textes que vous adressez sous une forme élégiaque à votre compagne. Mais peut-être accepteriez-vous de nous en lire un court extrait à votre façon. Je vous entends tourner les pages, je suppose que c'est que vous êtes d'accord.
Oui.
On vous écoute.
À présent, oui, tu es cet esprit. Crieur, criez. Elle est morte. Certains soirs, vous pourrez la voir, à la recherche des choses qui ne sont pas. J'essaie de faire un vœu, moi. Moi qui ne suis qu'humanité, comme le bourdon et la minuscule abeille, dissoudre les gouffres de l'horreur, faire revenir pour toi les martinets de Rome, et les roses, et tes miroirs. Ou à présent, oui, je sais. Rien ni personne ne vit longtemps que la terre et le ciel pour quelque temps. Mais tout de même, humanité demeure là, ô demeure, je t'en supplie.
Frédéric Boyer, vous êtes écrivain, vous écrivez des romans, des essais, des poèmes, vous traduisez des livres, mais vous êtes également éditeur, et ce depuis de nombreuses années. Vous prendrez officiellement la tête des éditions POL le 1er juin prochain. Dans quel état d'esprit reprendrez-vous cette maison ? Vous avez déjà commencé à travailler, bien entendu, et je rappelle que vous êtes édité chez POL depuis 1991. Donc c'est une maison que vous connaissez bien.
Oui, on peut dire, oui, voilà. J'ai rencontré Paul Tchaïkovski il y a presque 30 ans. Et il y a une quinzaine d'années, Paul m'avait dit, m'avait demandé si j'étais d'accord pour reprendre la maison, si jamais il n'était plus en mesure de la diriger, s'il disparaissait. Voilà. Dans ces moments-là, on dit toujours oui à la personne qu'on aime pour la rassurer, pensant que ça n'arrivera jamais. Donc le jour où ça arrive, ben on prend ses responsabilités, on accepte. Moi, mais au-delà de tout ça, je reprends cette maison avec l'idée que il faut que cette maison poursuive, que cette maison reste ce qu'elle a toujours été depuis plus de 35 ans maintenant, c'est-à-dire une maison de littérature très contemporaine et une maison qui était ouverte à différentes formes d'écriture, souvent d'ailleurs très joyeuse, très libre,
et voilà. Très éclectique.
Très éclectique également. Aussi. Alors ça, c'était aussi la personnalité de Paul. Donc après, on verra dans la vie, dans le temps, comment les choix se feront. Mais ce qui est important, c'est que cette maison, voilà, qui est très singulière, puisse continuer d'exister, et que les auteurs de cette maison sachent qu'elle est toujours là et qu'ils seront toujours les bienvenus chez eux, comme on dit.
On va écouter la voix de Paul Otchalkowski, Laurence. Il était l'invité de la Grande Table sur France Culture le 29 novembre dernier, à l'occasion de la sortie d'un film qu'il avait réalisé sur lui-même. Il s'intitulait Éditeur. Justement, on l'écoute parler de la façon dont lui considérait son propre métier, la façon même dont il travaillait. Paul Otchalkowski, Laurence.
Découvrir de nouveaux auteurs, ça c'est quand même une joie immense, quelque chose de très 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 puissant, très fort. Et puis c'est à partir du moment où un auteur entre dans cette maison, comme dirait Christian, à partir du moment où un auteur entre dans la maison d'édition, c'est l'aider à développer son œuvre, à s'épanouir dans son œuvre et suivre cette œuvre à travers les genres les plus divers, si l'auteur a besoin de constituer son œuvre à travers les genres les plus divers. Il n'y a pas de genre interdit dans la maison. Aujourd'hui encore, je prends énormément de plaisir à ouvrir les enveloppes. C'est quand même quelque chose de très, très étonnant, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Et parfois, il y a des rencontres formidables. Je commence par lire la lettre d'accompagnement quand il y en a une. Ensuite, je lis comme un lecteur normal. Et puis, bon, je vois si ça me plaît ou pas. Si ça me plaît beaucoup, je le mets de côté. Je l'emporte chez moi le soir ou le week-end. Mais et puis je continue. Je parcours le livre. Je saute des pages. Je reviens en arrière. Je vais à la fin. Je me promène. Et puis, au bout d'un moment, je sais si ce livre va m'intéresser. Je ne dis pas qu'il est bon ou mauvais, je sais simplement qu'il m'intéresse ou qu'il ne m'intéresse pas beaucoup.
Frédéric Boyer, on peut dire que, d'une certaine façon, POL se fiait à son sentiment le plus subjectif de lecture.
Oui, tout à fait, c'était assez radical, c'est ce qui a fait la force aussi de ses choix. Hein. Et alors là, on entend quelque chose de... Mais je suis heureux parce qu'il était profondément comme ça, c'est-à-dire c'était quelqu'un de très joyeux, de très passionné, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout mélancolique, donc pas comme moi. Et il était, on le voyait effectivement, il était dans une sorte de gaieté quand il pouvait ouvrir, lire, et même si les choses lui résistaient, s'il n'aimait pas, mais il était de toute façon toujours prêt à découvrir quelque chose et à entendre une voix nouvelle, ce qui était vraiment intéressant.
Et on entend d'ailleurs dire, et tous les auteurs qui ont travaillé avec POL, vous en faites partie, Frédéric Boyer, confirment qu'il lisait tous les manuscrits qu'il recevait, qu'il passait des semaines enfermés dans sa maison du Sud à lire. Est-ce que vous êtes un éditeur de la même trempe, disons? Est-ce que vous lisez tout? Est-ce que vous lisez les lettres d'accompagnement? Ou est-ce que vous avez une façon de faire très différente, vous?
De toute façon, forcément, je suis différent. Il avait une telle passion et d'abord une telle expérience aussi, parce que sous le côté spontané, il y a une grande expérience. Quelqu'un qui était depuis plus de 40 ans dans l'édition, qui était chez Flammarion, chez Hachette, et puis qui avait créé sa propre maison. Donc voilà, donc moi, je ne peux pas revendiquer tout ça. Donc moi, je suis plutôt dans l'idée, là, finalement, d'apprendre un peu à...
Une position d'humilité, à vous entendre.
Oui, mais moi je suis là pour me mettre au service de cette maison, des auteurs qui y sont, et puis de ceux que peu à peu je pourrais découvrir. Mais je suis dans une forme d'apprentissage un peu, moi je j'ai pas honte de le dire, voilà. Et je commence effectivement à ouvrir les enveloppes et à lire les manuscrits. Et il faut d'abord penser dans l'immédiat aux auteurs de la maison, puisqu'il y avait de nombreux auteurs qui attendaient une réponse de Paul ou de savoir quand leur texte pourra être publié. Donc là, moi, je suis en train de travailler à ça, voilà. Et puis, progressivement, la maison va s'ouvrir et va poursuivre comme elle l'a toujours fait.
Frédéric Boyer, vous parliez de son expérience d'éditeur pendant 40 ans. Vous avez une autre expérience de très longue date. C'est que vous écrivez à peu près un livre par an depuis au moins 20 ans, hein, disons même plus de 20 ans, presque 27, 28, presque 30 ans. Allez, la différence entre vous et lui, c'est que lui n'écrivait pas. Quel rapport allez-vous pouvoir entretenir avec l'écriture, sachant que bon, vous êtes éditeur depuis longtemps, je rappelle que vous étiez directeur éditorial chez Bayard, mais là peut-être que la maison POL va vous occuper un peu plus de temps.
En tout cas, c'est sûr que le rapport entre l'écriture et l'édition, c'est quelque chose d'un peu particulier et qu'effectivement, je vais découvrir quelque chose. Moi, je ne peux rien dire aujourd'hui en toute sincérité. Je ne sais pas aujourd'hui si je continuerai à écrire et à publier aussi abondamment que je l'ai fait, peut-être trop d'ailleurs, ces 30 dernières années. Si je vais prendre un peu une distance personnelle par rapport à ça pour me consacrer davantage à l'édition ou si je vais arriver à trouver un rythme qui conciliera les deux. Là,
Vous allez vous laisser porter. Voilà. C'est un peu tôt pour le dire encore.
Oui, et puis c'est vrai qu'il y a ce rapport. Alors, il y a de très grands éditeurs qui ont été des grands écrivains. Il y a beaucoup de grands écrivains qui ne sont pas éditeurs. Et voilà, donc il faut. Bon, je vais essayer de trouver quelque chose à moi.
Paul choisissait d'éditer un auteur par goût au risque même parfois qu'il ne se vende pas. Alors là, c'est plus Siri, c'est de l'autre côté de. C'est bon, tout est rentré dans l'ordre. C'était un choix d'édition existentielle avant d'être économique. D'ailleurs, il disait que l'édition est une aberration économique. Est-ce que ce positionnement devant les livres, devant l'édition, est encore possible aujourd'hui? On dit de plus en plus que c'est un moment difficile pour les éditeurs de littérature, Frédéric Boyer.
Oui, sûrement, c'est difficile, mais ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est que je crois qu'on est à un moment donné, un moment culturel, un moment presque peut-être de civilisation où on ne sait plus trop où la littérature se situe dans notre univers civilisationnel, culturel, à quoi elle peut encore servir, quelle peut être la séduction de la littérature. Mais après, moi je suis beaucoup plus ouvert. Je crois que de toute façon, si on veut qu'une maison d'édition soit dynamique, on est obligé de faire des choix parfois radicaux et on est obligé d'accepter de publier des livres dont on sait qu'ils ne vont pas peut-être tout de suite faire 100 000 exemplaires. Mais on ne peut pas éviter de faire ces choix-là. Voilà. Après, oui.
Oui, mais quand la librairie de plus en plus vous dit « Ah mais non, moi je ne le prends pas parce que il ne va pas se vendre et donc je mets sur mes étalages des livres dont je sais qu'ils vont nécessairement partir assez vite parce que moi-même je suis pris dans une course à l'économie », c'est de plus en plus difficile parce que c'est tout un circuit.
Si, mais c'est un combat effectivement, c'est un combat. On peut le faire ensemble. Il y a quand même beaucoup encore, heureusement, de libraires en France qui défendent des livres, même si l'on sait que ces livres auront une audience limitée. Et puis, parce qu'on sait que souvent, un auteur publie un premier livre, deux livres. Ces livres ne rencontrent pas un grand succès, mais très progressivement, une œuvre va s'affirmer, puis un livre va rencontrer un public plus large. Voilà, c'est-à-dire que la vie est plus intelligente que nous et voilà, il faut essayer d'être en accord avec elle. Même si c'est parfois de la résistance et même si effectivement on est obligé de faire des choix parfois.
C'est un peu en funambule d'une certaine façon.
Oui, mais c'est plutôt bien d'être en funambule.
C'est une ligne effectivement de funambule et vous allez la tenir. En tous les cas, on sent votre motivation, on sent votre passion, Frédéric Boyer. On vous garde. Vous restez avec nous, on vous retrouve dans deux minutes, juste après les titres de l'actualité, puisqu'il est 7h30 sur France Culture. Les titres de l'actualité présentés par Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour à toutes et à tous. C'est clairement la partie la plus sensible de la visite d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. Le chef de l'État était ce matin à Ouvéa, 30 ans après l'assaut meurtrier de la grotte où des indépendantistes retenaient des otages. Face aux critiques de la population locale, le chef de l'État a renoncé tout à l'heure à déposer une gerbe sur la tombe des 19 victimes kanak. Nous y reviendrons dans le journal de 8h avec notre envoyé spécial à Ouvéa, Bertrand Galichet. La fête à Macron sera pacifique et familiale, précision martelée par son principal organisateur, le député François Ruffin de la France Insoumise, maintes fois accusé cette semaine de complaisance avec les violences des Black Blocs. Hier, la préfecture de police de Paris a annoncé qu'elle renforçait son dispositif de sécurité dans le rassemblement d'opposition qui se déroulera dès midi entre les places de l'Opéra et de la Bastille. Lui avait parié sur un désaveu des syndicats chez Air France. Le PDG Jean-Marc Janaillac a présenté hier soir sa démission, désavouée donc par cette consultation des salariés dont il est espérait sortir renforcé. Plus de 55% des votants ont rejeté sa proposition d'augmentation des salaires qui avait été jugée insuffisante par l'intersyndicale. Une information de nos confrères de France Info, seulement 17 offres de reprise ont été déposées pour le moment chez Carrefour pour les 272 magasins anciennement de l'enseigne Dia dont le groupe souhaite se séparer. Pour le moment donc, seulement 92 emplois seraient repris sur les 2100 menacés en tout par ce plan de sauvegarde de l'emploi. La statue de la discorde à Trèves, en Allemagne. C'est là que naissait il y a 200 ans Karl Marx, et c'est là qu'est inaugurée aujourd'hui cette statue du philosophe, auteur du Capital, 5 mètres de bronze offert par le régime communiste chinois. Des opposants allemands à cet hommage appellent déjà à déboulonner Marx. Enfin, dans une demi-heure, je vous emmènerai à Bruxelles, après Metz et Malaga. C'est là que le Centre Pompidou ouvre un nouveau musée ce samedi. C'est Pierre Benazet qui assurera la visite pour nous dans le journal de 8h.
Eh bien, à tout à l'heure, 8h, donc, pour le développement de tous ces titres. Camille Magnard, à suivre d'ici le journal de 8h à 7h40, la fabrique médiatique sur la place de l'histoire dans la commémoration de mai 68, avec Emmanuel Laurentin de France Culture et François-Guillaume Lorrain du Point. Et puis, dans un instant, la suite de notre entretien avec l'écrivain et éditeur Frédéric Boyer.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente les rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. Panorama de la danse contemporaine, ce festival réunit une communauté d'artistes venus des quatre coins du monde. Entre nouvelles révélations et artistes confirmés, cette édition présente 30 spectacles dont 9 créations. Une invitation à voyager dans les cultures et les imaginaires de chorégraphes tels que Lisbeth Cruet, Marco Berrettini, Mylène Benoît, Mathieu Barbin et bien d'autres. Les rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis du 16 mai au 16 juin dans 13 théâtres partenaires. Un partenariat France Culture.
Frédéric Boyer, notre invité auteur d'un livre qui vient tout juste de paraître, peut-être pas immortel, chez POL. POL, maison d'édition dont il reprend les rênes. On a entendu en parler tout à l'heure. Je voudrais juste m'arrêter quelques minutes avec vous, Frédéric Boyer, sur ce moment culturel que nous traversons et dont vous avez commencé de parler juste avant les titres de l'actualité. Si je reprends par exemple votre essai « Là où le cœur attend », votre essai précédent, c'était aussi une affirmation au droit d'espérer, à ce que vous appelez l'espérance, avec une valeur théologique plus forte que l'espoir, hein, qui est, disons, plus républicain. Espérance que nous aurions perdue, dites-vous. Est-ce que vous diriez, vous qui écrivez d'ailleurs aussi une chronique régulièrement toutes les semaines dans La Croix, qu'on en a plus besoin que jamais de cette espérance ? Ou de cet espoir, selon qu'on l'appelle ici, comme ci ou comme cela ?
Oui, non, mais alors la distinction espoir-espérance est juste.
On y revient toujours à cette distinction.
Oui, non, mais finalement c'est assez simple parce que en théologie, l'espérance, le discours théologique va formuler de façon très 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 rapide, va formuler ce à quoi sert l'espérance. Et l'espérance, elle sert, c'est ce que dit saint Paul en gros, à saisir les choses que nous n'avons pas encore et que nous souhaitons. Donc,
elle donne confiance dans un pas encore.
Elle donne confiance, mais même c'est déjà une possession de ce qu'on n'a pas et de ce qu'on devrait avoir et de ce qu'on espère avoir. Voilà. Donc c'est une vie déjà que l'on peut vivre, même si on la vit en espérance, on ne la vit pas en réalité. Et je crois qu'effectivement ce sentiment manque. En tout cas, ce sentiment devrait être davantage travaillé aujourd'hui parmi nous, puisque c'est un droit. Voilà, c'est que comment une vie peut être digne, comment une vie peut être vécue dignement si on ne lui accorde pas le droit d'espérer quelque chose de meilleur ou le droit d'espérer dans ce qu'elle a de plus fort et de plus intime pour se réaliser. Voilà. Je crois qu'une vraie politique, ça devrait être une politique qui s'appuie d'abord sur l'espérance des personnes.
C'est vivre, commencer à vivre, recommencer à vivre.
Voilà, c'est d'abord c'est poser le fait que chaque personne, que chaque communauté a une sorte de pouvoir de se relever, de se reconfigurer, de se réinventer, et que toute politique devrait être accueillante dans cette accueillir cette puissance que peut avoir une personne ou une communauté entière à vouloir ardemment se relever, se reconstruire et retrouver le sens d'une vie digne et heureuse. Voilà,
vous laissez finir la phrase. Recommencer, c'est précisément le titre, puisque vous dites relever, retrouver. Recommencer, c'est précisément le titre d'un essai paru tout récemment d'un philosophe, Mathieu Pot-Bonneville. Il était l'invité de France Culture le 23 mars dernier. Écoutez-le parler de son recommencer.
Je ne sais plus qui avait formulé ou formalisé cette notion d'extime, c'est-à-dire l'intime qui passe au dehors. Aujourd'hui, il y a une tendance dans une part de la philosophie, à s'intéresser aux questions existentielles à l'écart du monde. Moi, je pense, c'est quelque chose que j'ai hérité de ma lecture de Foucault aussi, que les formes et les transformations du soi, la manière dont on se sent, dont on se prend en main, dont on essaie de s'y remettre, tout ça n'est pas étranger à ce qui circule autour de nous. Au fond, la question du recommencement telle que j'essaie de l'aborder, elle est prise entre le désir de renouveau et l'expérience de la répétition. De recommencer veut dire les deux. Hein, veut dire ça recommence, oh non, ça recommence. Et puis veut dire j'ai envie de recommencer. Donc comment est-ce qu'on taille ou on plie un recommencement qui soit le sien à l'intérieur de ce retour éternel et malheureux de la fatigue ou de la difficulté? Ça, c'est une question qui m'a intéressé.
Voilà. Vous vous retrouvez dans les propos de Mathieu Pottebonneville, Frédéric Boyer?
Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que, d'abord, il n'y a pas de commencement. Donc, il n'y a que des recommencements. Le commencement, on peut, par définition, on n'y a pas accès puisqu'on ne peut pas être témoin d'un commencement. On ne peut pas être témoin du commencement du monde, par définition. Donc finalement, dans l'existence, on doit penser le recommencement, effectivement. Et l'expérience que l'on fait du commencement, c'est toujours un recommencement. Et c'est intéressant aussi de penser que toute vie, même d'un point de vue politique, quoi, que toute vie a le droit de recommencer.
Et l'extime, c'est aussi quelque chose qui doit vous parler, vous qui écrivez et qui êtes sensible hein, depuis longtemps dans vos écrits à des questions sociales et politiques. On pense à la condition des prisonniers ou des réfugiés dans Quelle terreur en nous ne veut pas finir, que vous aviez signé en 2015. Mais 68, puisqu'on va y venir avec la fabrique médiatique dans un instant, mais 68, un grand moment d'espérance?
D'une certaine façon, oui, ça a été quelque chose, ça a été une formulation justement du fait que peut-être les vives, voilà, voulaient exprimer leur pouvoir de se réinventer, et peut-être posséder quelque chose qui n'était peut-être impossible ou qui était fou, et puisque l'espérance, c'est vraiment ça, c'est cette idée de posséder quelque chose qu'on n'a pas encore. Alors ça peut paraître difficile, mais c'est une excitation, et cette excitation, elle fait tenir les vies debout, voilà. Donc oui, moi j'avais 7 ans en 68, je m'en souviens un peu, mais je sais pas.
Merci beaucoup. Merci. Frédéric Boyer. On va continuer justement cette discussion avec nos deux invités dans un court instant. Juste le temps d'écouter ce que vous écoutez en boucle, nous avez-vous dit, en ce moment, Hyper Nuit de Bertrand Belin.
Il entoure de la maison Hyper Nuit. Hyper nuit, celui bien nommé la bête, le mal grandit celui même. Il entoure de la maison, hyper nuit, celui bien nommé la bête. Celui qui buvait le lait au pimen, celui-là même.